Et on l'a joint tout de suite au bout du fil, Olivier Beauregard. Bonjour.
Salut.
Plusieurs choses dans le monde du sport, puis on va aussi peut-être un peu reculer jusqu'à la semaine dernière parce que tu étais absent. C'est un plaisir de te retrouver en pleine forme.
Plaisir partagé.
Et tu voulais revenir sur l'intronisation de Daniel Alfredsen, qui s'est fait, là, ben, c'est justement, tu en aurais parlé la semaine dernière normalement, mais là, on rattrape le retard cette semaine.
Ouais, exactement. L'intronisation de Daniel Alfredsen au Temple de la Renommée, moi, pour moi, d'abord, je commencerai en vous disant que c'est tout à fait mérité. Peu importe ce que le monde puisse en passer, moi, je pense que ce gars-là a aidé la franchise des Sénateurs d'Ottawa à se mettre sur la map. Je pense que c'est un gars que s'il n'avait pas été là, s'il n'avait pas donné autant aux Sénateurs d'Ottawa, puis il n'avait pas été un aussi bon ambassadeur, un aussi bon leader, cette franchise-là ce serait pas nécessairement une franchise avec les reins solides. On parlerait plus d'une équipe un peu à la, malheureusement, les Coyotes de l'Arizona, où tu vois qu'il n'y a pas nécessairement d'identité à cette équipe-là. C'est sûr qu'au courant des dernières années, là, les Sénateurs ont peut-être tenté de chercher un peu c'est quoi leur identité, mais on le sent là qu'on veut renouer avec nos anciens, avec ceux qui nous ont fait vibrer. Écoutez, Daniel Alfredsen, c'est pas compliqué, là. C'est un joueur qui a connu une brillante carrière et c'était dans les premiers Européens qui arrivait dans la Ligue nationale à connaître autant de succès. Tu sais, ça a comme inspiré une génération par la suite de joueurs de hockey. Et c'est ça qui est intéressant parce que ce gars-là a non seulement connu une brillante carrière dans la Ligue nationale, mais a connu une bonne carrière sur l'échelle internationale, a remporté des médailles d'or, des médailles olympiques, a justement évolué là sur les plus gros échelons. Et tu sais, dans la Ligue nationale, là, c'est pas compliqué. Plus de 1000 matchs en carrière, 1246 matchs pour être exact. Plus de 400 buts, on parle de 1157 points. Écoute, c'est quasiment un point par match pour un gars qui était un Européen, qui était un premier Européen dans la Ligue nationale de hockey. Moi, il n'y a qu'une seule coquille, Sébastien, à sa carrière, puis c'est pas compliqué, c'est qu'il n'a pas été capable de terminer sa carrière avec les Sénateurs d'Ottawa. En ce sens où on se rappellera, lors de la saison 2013-2014, il avait comme un froid avec le regretté Eugene Melnyk, on sait, il a fini sa carrière avec les Red Wings de Détroit. Ça, je pense que les partisans, encore aujourd'hui, là, ont de la difficulté à digérer cette pilule-là. Ce gars-là avait disputé plus de 1100 matchs avec la même équipe. Puis finalement, n'a pas été en mesure de se retirer. Ben, tu sais, on lui a fait signer, rappelle-toi, à l'époque, là, un contrat d'une journée, mais je veux dire, c'est plus symbolique que ce que...
Ouais, non, c'est ça. Ça répare pas ce qu'on a fait avant, mettons.
Ben, exactement. Donc, moi, ça aurait été quoi de donner à Daniel Alfredsen un contrat d'une saison de plus pour qu'il puisse rester toute sa carrière avec les Sénateurs. Mais bref, tellement un bon joueur, tellement un bon gentleman, tellement un bon leader. Là, ce qu'on dit, c'est qu'il est de retour dans l'environnement des Sénateurs. Ce gars-là a fait d'Ottawa sa maison, d'ailleurs. Il a décidé de rester là. Et on le sent de plus en plus impliqué auprès des Sénateurs d'Ottawa. C'est malheureux, mais je pense que le fait que, malheureusement, là, Eugene Melnyk n'est plus là, je pense que ça l'a aidé Daniel Alfredsen à revenir dans le giron de l'équipe. Et je pense que c'est une bonne nouvelle au niveau du retour du grand leader, le leader incontesté des Sénateurs, d'être dans le giron de l'équipe. Moi, je pense que ça donne une crédibilité, puis surtout, ça va donner envie à cette concession-là de continuer de créer d'autres leaders comme ça, puis de pouvoir poursuivre, dans le fond, la tradition que Daniel Alfredsen a laissée. Alors, totalement mérité pour moi son intronisation, tant de la renommée. Ça n'a pas été fait de la première année, je pense, d'admissibilité, mais ça a été quand même fait rapidement, alors je suis bien content pour lui.
Maintenant, on va parler d'un retrait de chandail, celui de Chris Neal, qui soulève des questions chez plusieurs sur les critères qu'on devrait absolument cocher pour voir son chandail être retiré.
Ben, c'est tellement bien dit, parce que c'est vraiment ça le débat à l'heure actuelle. C'est pourquoi Chris Neal va avoir son chandail retiré. C'est un homme fort dans la Ligue nationale. Ça n'a pas été nécessairement la grande carrière à l'attaque. Ça n'a pas été un gars d'impact. Et moi, je pense que les gens se trompent parce que Chris Neal, pour moi, a été un autre tellement bon leader pour les Sénateurs d'Ottawa. A tellement été l'exemple parfait du joueur. Plus de 1000 matchs, lui aussi. Avec les Sénateurs d'Ottawa, soit dit en passant, depuis la saison 2001. C'est un gars qui a tellement connu une bonne carrière. Ben oui, il a juste 250 points en plus de 1000 matchs. Mais écoutez, minutes de pénalité, c'est plus de 2000 minutes de pénalité. 2522 pour être exact. Ce gars-là a fait sa marque de commerce. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est que non seulement il a été capable de jouer à une époque où, bon, le jeu était différent, on le sait, beaucoup plus physique, beaucoup plus violent. Il était capable de jouer à cette époque-là, mais il a su également adapter son style et continuer de jouer dans la Ligue nationale. même, écoute, sa dernière saison 2016-2017, il a été capable d'amener son jeu jusque-là pour pouvoir remplir les critères de la Ligue nationale d'hockey. Donc, pour moi, oui, Chris Neal mérite d'avoir son chandail retiré parce que c'est un gars qui a tellement été impliqué dans la communauté d'Ottawa depuis son arrivée, depuis qu'il est là. Il a imposé le respect dans le vestiaire, il a imposé le respect de cette franchise-là que, soyons honnêtes, il n'y a pas beaucoup de gens qui respectaient. Je me rappelle de des séries contre les Leafs de Toronto au début des années 2000. Chris Neal avait un impact majeur. La finale de la Coupe Stanley, d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure de Daniel Alfredson, ça avait été un pilier, mais Chris Neal avait joué un grand rôle également contre les Ducks d'Anaheim en finale. Ça avait été une belle course aux séries pour les Sénateurs d'Ottawa cette année-là. Chris Neal avait joué un impact, c'est-à-dire pas nécessairement le gars qui va remplir le filet, évidemment, mais le gars qui va justement donner de l'espace, créer de l'espace à ses joueurs par son implication physique, par son jeu robuste. Et moi, ce que j'aime, c'est que ce gars-là, comme je vous dis, a tellement été impliqué dans la communauté. On l'a vu redonner énormément aux jeunes enfants. Il a créé des programmes à Ottawa. Il a été présent et il l'est toujours. Et ce gars-là ne demande que ça, d'être un représentant des Sénateurs d'Ottawa. Il veut pouvoir poursuivre la tradition des Sénateurs. Il est fier de venir d'Ottawa. Il est fier d'encourager la ville d'Ottawa. Alors, moi, je pense que ce gars-là mérite d'avoir son chandail au plafond pour ce qu'il représente pour la concession également. C'est-à-dire que Chris Neal va toujours être associé aux Sénateurs. Plus personne ne pourra dire que ce gars-là n'avait pas le cœur qui appartenait à cette organisation-là. Tu sais, je pense que Chris Neal va être identifié comme le guerrier ultime des Sénateurs. Mm-hmm. Puis moi, je pense que ça nous prouve que t'as pas besoin d'avoir gagné la Coupe Stanley pour pouvoir voir ton chandail retiré. Il y en a plein que c'est comme ça à travers la Ligue nationale. Il y a un débat de Carey Price à Montréal. Pourquoi mm-hmm. Carey Price aurait le droit d'avoir son chandail retiré puis pas Chris Neal en ce moment? Alors, tu sais, je comprends là, que Carey Price était le meilleur gardien au monde, mais je pense que Chris Neal a été l'homme fort le meilleur homme fort pendant un très long moment dans la Ligue nationale de hockey. Alors, pour moi, Chris Neal mérite d'avoir son chandail retiré.
Maintenant, parlons soccer, Olivier, parce que là, la Coupe du Monde a commencé dimanche. Hier, c'était le premier match du Canada. J'ai comme l'impression qu'on a vu émerger de nombreux amateurs de soccer qu'on connaissait pas tant que ça, finalement.
Incroyable, incroyable. Hein? Mais puis c'est correct, c'est ça la beauté.
C'est magnifique,
mais
oui.
Mais tout le monde me parle de la Coupe du Monde et des gens qui ont très, très peu d'intérêt dans la vie au sport qu'est le soccer. Là, c'est comme si on venait d'inventer un tout nouveau sport puis c'était la chose la plus belle au monde. Écoute, moi, j'aime les événements mondiaux. Je m'en cache pas. Je suis pas un grand amateur de soccer. Je suis content que le Canada fasse partie de la Coupe du Monde, mm-hmm. par exemple. C'est une première en très, très, très longtemps. Et c'est intéressant de voir un gars comme Samuel Piette, en fait, représenter le Canada, mais représenter le Québec aussi. C'est une chance inouïe qu'on a, puis c'est sûr qu'on suit ça d'un œil attentif. Mais c'est fou. Et je faisais ce constat-là. J'en parle régulièrement aux gens autour de moi. Tout le monde a un intérêt envers la Coupe du Monde au Qatar en ce moment. Tout le monde veut savoir qu'est-ce que le Canada fait. Alors, ça montre à quel point cette formule-là fonctionne. C'est un élément qui est rare, puis on ne voit pas ça souvent. Ce sont des matchs qui, disons-le, en ce moment, sont plus intenses que les matchs de saison régulière. Ben oui, de saison régulière, mm-hmm. je trouve que c'est ce qui rend la chose intéressante. Parce que ceux qui suivent le soccer européen quotidiennement, là, tu sais, là, qui sont des assidus, permettez-moi de vous dire que c'est pas le même jeu, en tout cas selon ce que mon constat à moi, parce que je trouve que là le jeu est rapide, il y a beaucoup d'action, ça fait du bien. Et c'était l'entrée en scène du Canada hier contre la Belgique. On n'a pas été en mesure de marquer, là, tu sais, ça s'est terminé par la marque de 1-0. Mais selon ce que je comprends, puis selon ce que les amateurs qui suivent ça disent, le Canada fait bonne figure et le Canada mm-hmm. représente une équipe qui aspire peut-être à se rendre, à faire un bon bout de chemin. Alors, moi, écoute, ça va être dur pour moi de te faire une évaluation complète de toutes les équipes, parce qu'évidemment, je les connais pas. Mm-hmm. Puis je suis bien honnête avec vous, mais je peux vous dire une chose, je vais suivre ça d'un œil attentif, je vais écouter, puis on va avoir l'occasion de te reparler la semaine prochaine pour peut-être un peu apprendre ensemble à connaître ce sport-là, puis apprendre un peu à connaître les grandes équipes qui sont représentées au Qatar présentement. Moi, je pense que ça risque d'être un tournoi qu'il y a beaucoup de gens qui vont suivre d'un œil, peut-être pas nécessairement attentif, mais qui vont suivre quand même du coin de l'œil à savoir hey, qu'est-ce qui se passe à la Coupe du Monde, qu'est-ce que le Canada fait présentement. En tout cas, en ce moment, c'est ça. Dans mon entourage, ce n'est que de ce qu'on parle.
Puis c'est je trouve que c'est de la belle visibilité pour le sport et ses vedettes auprès des jeunes, je trouve. Le fait que le Canada soit présent là cette année.
Et ils sont souvent les grands oubliés, hein? Mm-hmm. Oubliés. Le soccer, c'est pas le sport qui a le plus profite le plus de publicité, que ce soit au Canada ou même aux États-Unis. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, ben on investit des gros dollars là-dedans. On veut faire de la publicité à l'entour de la Coupe du Monde. Alors, c'est bon pour le sport, évidemment. Et je suis curieux de voir le nombre d'inscriptions dans ce sport-là qui va se faire par la suite. Parce que c'est sûr que ça va connaître une hausse. Parce que moi, je le vois, là, les gens ont un engouement, ont un intérêt. Je pense que ça va avoir un impact direct.
Mais c'était déjà en hausse. Dans les dernières années, j'ai cru voir des chiffres que c'était le ou un des sports là, où il y a le plus de jeunes inscrits là, au pays. Là.
Intéressant.
Maintenant, parlons, là, en terminant rapidement, de ce livre de Pierre Gervais qui fait couler beaucoup d'encre. J'ai pas vu beaucoup de livres, j'ai plus vu les commentaires sur le livre.
Ouais, exact. Je vais être prudent là, dans mes propos parce que je veux pas avoir l'air de défendre ou d'attaquer quelqu'un. Mais il y a une chose qui est sûre. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer Pierre Gervais sur une base quotidienne à tous les jours. Mm-hmm. Pendant un certain temps, quand je travaillais pour l'équipe, Pierre Gervais, c'est un gentleman. C'est un gars qui en a vu des choses. C'est un gars qui a vécu des moments historiques. Moi, je pense qu'écrire un livre, c'était plus que nécessaire parce que Pierre Gervais peut à lui seul vous compter les conquêtes des Coupes Stanley à Montréal. En tout cas, chose certaine, la dernière peut vous la compter du jour 1 du camp d'entraînement jusqu'à la finale de la Coupe Stanley. C'est malheureux ce qui arrive parce que je pense que Pierre avait aucune mauvaise intention quand il a écrit ce livre-là. Lui, il voulait juste avoir l'occasion de partager son expérience puis d'expliquer un peu ce qu'il a vécu au sein de ce vestiaire-là. Et là, ben évidemment, on sait, s'est attaqué un peu à Dominique Ducharme dans son livre en disant qu'il n'avait jamais eu son vestiaire, que les joueurs ne l'aimaient pas beaucoup. Après ça, bon, il y a eu quelques déclarations contre Max Pacioretty également dans son livre. J'ai jamais senti non plus dans ce que je comprends des commentaires, dans ce que je comprends des passages également qui ont été mentionnés, là, que c'était attaquer une personne directement, en tout cas sur le plan personnel. Moi, je pense qu'on attaquait les individus sur le plan professionnel et c'était surtout une comparaison sur ce que Pierre a vécu dans l'ensemble de sa carrière. C'est-à-dire que Dominique Ducharme, c'est sûrement une bien bonne personne, mais ça marchait pas avec les joueurs. Max Pacioretty, c'est sûrement une bien bonne personne, mais comme capitaine à Montréal, ça fonctionnait pas. Pourquoi lui est capable de le dire? Parce que lui, il en a vu des entraîneurs. Parce que lui, il en a vu des capitaines à Montréal. Lui, là, on lui demande de dire ce qu'il pense, il dit. Puis il est assez franc pour l'écrire dans un livre. Puis là, il se fait ramasser, puis là, les gens lui manquent de respect, puis là, les gens disent que Pierre Gervais est en campagne de publicité en essayant de démolir tout le monde pour vendre son livre.
Puis pour la plupart, sûrement des gens qui n'ont pas lu le livre, là.
Ben, premièrement, puis écoutez, là, Pierre Gervais, là, il avait pas besoin d'écrire un livre, là. Puis il avait pas besoin, lui, de se faire de la publicité, là.
Ben non.
Pierre Gervais a fait ça parce qu'il avait envie de le faire, parce qu'il avait envie de jaser, il avait envie de montrer aux gens c'est quoi son métier. Puis aujourd'hui, il se fait traiter de tous les noms, il se fait ramasser par tout le monde. Je te dis pas que ça a pas été maladroit un petit peu. Je te dis juste, par exemple, que lui prêter des mauvaises intentions, là, c'est mal connaître l'homme. Puis c'est surtout ne pas avoir pris la peine, je pense, de lire le livre. Les gens devraient apprendre un petit peu là à se faire une tête eux-mêmes avant de commencer à écouter des oui-dire, parce que je trouve ça malheureux. Puis j'ai vu des intervenants, puis je les nommerai pas, aller dans des émissions de télévisées de sport, des gens qui ont côtoyé Pierre Gervais, puis dire c'est irrespectueux ici et ça. Et pourtant, ces gens-là devraient faire attention, parce que ce sont des gens qui ont souvent été impliqués dans des histoires dont Pierre Gervais connaît et n'a jamais embarqué. Ces gens-là oublient vite. Et ça, là, moi, le fameux cas du vestiaire, je vais être bien honnête avec toi, Sébastien, ça me répugne. Si tu fais des choses ou si tu agis d'une façon dont tu ne devrais pas agir et que ça sort au grand jour, tant pis pour toi. Parce que le cas du vestiaire, là, excuse-moi, mais c'est de la bullshit. Ça, c'est pour protéger monsieur qui agit mal. Fait que si Pierre Gervais a décidé que lui, il voulait juste discuter, puis d'après moi, il est même pas allé à la moitié de ce qu'il sait. S'il a décidé d'aller dans une direction puis d'expliquer que ah, il avait des ratés, mais moi, je pense que c'est juste normal. Puis Dieu merci, il a juste dit ça. Moi, là, si c'était certains intervenants, je dirais Dieu merci, il a juste dit ça.
Puis en même temps, là, il n'a pas rien dit qu'on n'a pas entendu à différentes émissions de commentaires sportifs. Là. On a tout entendu ces commentaires-là avant.
Il y a des journalistes qui ramassaient Pierre Gervais sans cesse. Rappelle, pas Pierre Gervais, mais Dominique Ducharme quand il est entré dans le chef du Canada en disant il n'est pas capable d'avoir de l'autorité, blablabla. Pierre Gervais dit la même affaire dans son livre. Et ces mêmes médias vont donner de la chenoute à Pierre Gervais en disant « Voyons donc, t'as manqué de respect à Donald Trump. » Coudonc, ça fait un an que vous dites ça. Vous êtes payé la tête de Donald Trump en ondes pendant un an. Mais parce que Pierre Gervais, qui est là tous les jours, le dit, et qui n'est pas dans votre gang, ben là, il manque de respect.
Ah, on va se faire un cadeau, Olivier. On va lire le livre pour Noël.
Absolument.
On va prendre le temps de le lire. Ben, c'est correct, parce que là, on retient deux petits bouts, mais le livre est pas mal plus épais que ça. Puis je pense qu'il y a plein d'affaires à apprendre, puis sûrement bien, bien intéressante pour les amateurs du Canadien.
Tout à fait.
Olivier, un grand merci pour ton précieux temps aujourd'hui, puis on se retrouve la semaine prochaine.
Hey, merci, ça a fait du bien.
Ah, ben, tant mieux. Ça sert à ça des fois aussi.
Merci.
Salut.